France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
S'il y a un sujet en cette rentrée sur lequel on a tous un avis qui peut donner lieu à des débats passionnants, parce qu'on touche vraiment là à ce que nous voulons, à ce à quoi nous voulons que la société ressemble, c'est bien celui de la PMA, de l'extension du droit à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Les premières auditions commencent avant le débat fin septembre à l'Assemblée. Ça nous donnera largement l'occasion d'en reparler. Donc ce soir, pour entamer cette discussion, on a choisi de parler pratique. Avons-nous les moyens de ce qu'on nous promet? La pénurie de gamètes, la ministre y a répondu brièvement ce matin sur France Inter et nous y reviendrons. La levée partielle de l'anonymat, est-ce que ça va pousser au don? Est-ce qu'on risque au contraire un vrai moment de creux? Est-ce qu'on sait prendre toutes les femmes en charge? Il reste beaucoup de questions avant qu'on se lance sur le fond. C'est le moment de les poser. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Hélène, c'est vous la première. Bonsoir Hélène, bienvenue dans le téléphone sonne.
Bonsoir.
On vous écoute Hélène.
Alors moi j'avais une petite question très pratique, c'était de savoir comment seront évalués entre guillemets les dossiers des femmes célibataires ou des couples de femmes par rapport aux dossiers des couples hétéros. On a vu avec le mariage pour tous et l'ouverture de l'adoption que les demandes n'étaient pas forcément traitées de la même façon et que à choisir entre une femme célibataire, un couple homo ou un couple hétéro, c'était souvent le dossier du couple hétéro qui passait, qui était jugé davantage recevable. Qu'est-ce qui va en être pour la PMA? Est-ce que ça sera pareil et est-ce qu'on pourra vraiment prendre tout le monde en charge?
Eh bien Hélène, merci beaucoup, c'est une belle entrée en matière, ça fait beaucoup de questions en une, mais ça nous permettra d'aborder beaucoup de choses. Merci à vous pour répondre à vos questions jusqu'à 20h pour dialoguer ensemble. Nelly Achour-Friedman est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la biologie de la reproduction du CECOS, le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme. Ça se passe à l'hôpital Antoine Béclair, c'est à Clamart. Bonsoir Jean-Louis Touraine.
Bonsoir.
Vous êtes député de la République En Marche du Rhône, vous êtes rapporteur de la mission d'information sur la loi bioéthique. Et donc pour cela, vous allez sûrement nous être terriblement utile pour ce genre de questions. Tiens, c'est d'ailleurs avec vous qu'on va commencer. Est-ce qu'il y aura comment on va appeler ça? Comment on fait pour prioriser? Une priorité, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle.
Il n'est pas question qu'il y ait la moindre discrimination, non seulement dans les équipes qui vont les réaliser, qui doivent accorder autant d'accès à la PMA pour les femmes seules ou les femmes en couple que pour les couples hétérosexuels. Et d'autre part, il n'est pas acceptable à l'avenir qu'il puisse y avoir des donneurs qui disent « je veux donner des spermatozoïdes qui ne seront confiés que à des couples hétérosexuels ». Ça n'est pas acceptable. Toute discrimination, toute tendance homophobe, toute priorisation excessive, toute difficulté...
Chacun de ces dons-là sera refusé, ou de toute façon, vous
absolument,
pouvez...
Est-ce
que vous refusez par le principe, ou est-ce que vous laissez donner?
Non.
Mais évidemment
non.
Que vous
non.
Ne donnerez
on
pas,
laisse pas donner.
Ce
on
genre
pas
de...
Donner.
D'accord.
On
ne
pourra pas
donner.
Dons dirigés.
D'accord. Alors, on va y venir un instant, ce que peut être effectivement le don dirigé. Dans la suite de la question d'Hélène, il y a, du coup, est-ce que ça veut dire premier arrivé, premier servi? Au fond, c'est comme ça que ça va
absolument,
fonctionner?
Absolument. Il peut y avoir des questions médicales. Mmh. Il peut y avoir, madame, pour le décrire plus en détail que moi, il peut y avoir des raisons, par exemple, pour compléter les examens à faire dans une femme qui a pu avoir des difficultés à procréer précédemment. Donc, il peut y avoir un certain délai.
Mmh.
Bon. Mais autrement, une fois que les gens sont inscrits sur une liste d'attente, c'est ce que vous dites, premier arrivé, premier servi.
Nelly Achour-Friedman, je vous voyais réagir, je vous en prie.
Alors, écoutez, la question d'Hélène, c'est sur la hiérarchisation des soins.
C'est la hiérarchisation des soins et surtout, du coup, est-ce qu'il y a de la place réellement pour tout le monde, en
alors,
fait ?
Alors, là-dessus, on est tous d'accord, tous les professionnels de santé, même on voudrait que ce soit carrément rajouté dans la loi, qu'il n'y a pas de différence entre les couples hétérosexuels, les femmes non mariées et les couples de femmes. Je dirais que le critère qu'on va retenir, c'est un peu un critère médical, c'est surtout l'âge de la femme. Mmh. Puisqu'on sait très bien que au-delà de 35 ans, la fertilité est diminuée. Et donc, entre nous, on s'est dit que la première chose qu'on regardera, c'est quelles sont les femmes qui en ont le plus besoin le plus vite. Une femme de 30 ans, bon, peut-être qu'elle attendra plus longtemps qu'une femme de 35. C'est tout.
Sur la suite de la question d'Hélène, sur est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'accueillir toutes les femmes, est-ce qu'on a une idée d'abord ? Est-ce qu'on sait faire une évaluation des demandes pour l'instant ou pas du tout ?
Alors, c'est...
Allez-y, Mme Bachaud-Friedman et Jean-Louis Touraine répondra aussi.
Oui, c'est un peu compliqué comme question. Alors qu'il est en France, on fait 2800 inséminations avec sperme de donneur pour des couples hétérosexuels. Mm-hmm. Ce qu'on sait, c'est que si on prend le...
2800 par an ?
2800 par an, okay. C'est pas beaucoup.
Okay.
On a 363 donneurs par an et il y a déjà, si on peut, on peut donner quelques chiffres, il y a 1700 couples qui ont bénéficié d'un don de sperme, sachant quand même qu'il y a 2200 demandes. Mm-hmm. Donc vous voyez que progressivement, c'est forcément, il y a une liste d'attente puisqu'on ne répond pas complètement à la demande. Quand on regarde le modèle en Belgique, lorsqu'ils sont mis à ouvrir aux couples de femmes et aux femmes seules, l'activité de don de sperme, progressivement, c'est à bouger, et alors qu'il est 87% du don de sperme est utilisé pour des couples de femmes ou des femmes seules. Donc vous voyez que les couples hétérosexuels sont devenus une vraie minorité. Alors parmi ces couples, il y a 7000 tentatives qui sont faites en Belgique. Il y a beaucoup de femmes de chez nous. On ne sait pas vraiment
c'est
combien.
Ce que vous demander 7000, mais c'est réparti comment est-ce que c'est toute l'Europe au fond qui peut aller en Belgique, mais pas seulement d'ailleurs.
Probablement une grosse patientèle française. Donc, partant de ce principe-là, probablement qu'on aura à doubler ou à tripler notre activité de don de sperme.
Jean-Louis Touraine, là-dessus, sur les chiffres, est-ce qu'on sait évaluer ça, effectivement ? Et est-ce qu'on sait même évaluer une géographie ? Parce qu'à un moment, ça va se poser aussi en ces termes-là,
oui,
non ?
Oui. Alors, il y a déjà, globalement, la crainte de la pénurie, qui existe déjà un petit peu maintenant, et qui aura deux facteurs d'aggravation, si je peux dire. L'un, c'est qu'il y aura plus de demandes, puisqu'on ajoute des femmes qui, pour l'instant, n'étaient pas retenues, et d'autre part, parce que on introduit une nouveauté, c'est-à-dire qu'on demande au donneur de ne pas cibler son don seulement pour des couples hétérosexuels, mais on lui demande aussi d'accepter de donner des indications sur lui-même pour que l'enfant qui va naître, plus tard, puisse avoir accès à ses origines. C'est une nouveauté de la loi qui fait que les enfants
nés de dons... On va y revenir, il y a beaucoup d'appels dans ce sens-là.
On s'est rendu compte qu'ils avaient besoin pour se former, et pas seulement d'ailleurs psychologiquement, mais aussi médicalement, pour avoir des indications précises sur les maladies auxquelles ils peuvent être exposés, il y a besoin qu'il y ait des informations sur leur donneur.
Ce qui semble... j'entends la légitimité de cette demande, mais du coup, est-ce que ça veut dire que ces deux facteurs combinés, plus de femmes et des dons...
Il n'y aura pas de pénurie pour peu qu'on fasse des campagnes de dons. Pour l'instant, vous l'avez entendu, il y a moins de 400 donneurs. Il y aurait 600 ou 700 donneurs dans toute la France. Excusez-moi, il y a 30 millions d'hommes, un peu moins de l'âge correspondant. Il faut qu'ils soient en bonne santé, etc. Mais enfin, il y a des millions et des millions d'hommes parmi lesquels je n'imagine pas qu'on ne trouverait pas 1000 personnes pour peu qu'on les sollicite, qui disent « je suis altruiste, je veux aider des gens qui n'arrivent pas à procréer, je veux faire ce geste de don ». Il suffit de leur demander.
Voilà, donc pour l'instant, il n'y en a pas assez, mais le potentiel est là. C'est ça que vous dites, en fait.
Mais il faut faire des campagnes. Si le don de sang, on a beaucoup plus d'honneurs de sang parce qu'on les sollicite.
Je voudrais justement sur ce chapitre-là qu'on écoute Jean-Mathieu. Bonsoir Jean-Mathieu.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, juste, moi je pense que la levée de l'anonymat me freinerait un petit peu. J'ai déjà donné mon sperme une fois. Et voilà, j'ai pas forcément envie que quelqu'un vienne, j'ai déjà trois filles formidables, j'ai pas envie que quelqu'un vienne me chercher dans 18 ans pour me demander des infos ou venir me demander des choses. Et par rapport à ce que vient de dire Monsieur Touraine, moi je sais que j'avais eu un entretien assez poussé avec une généticienne qui avait fait tout mon génome, qui avait étudié toute ma famille pour savoir s'il y avait des maladies, et je pense qu'il y a une trace de ça dans mon dossier, donc... voilà, enfin, je pense que effectivement, ça pourrait ralentir certains donneurs de savoir qu'il y a une levée d'anonymat
donc
à
ça,
venir. Quoi.
Ce que vous dites, c'est que ça suffit. En fait, ce que je veux dire, c'est que donner des infos sur vous, sur vos maladies, etc., pourquoi pas, mais pas jusqu'à votre nom, en gros. Est-ce que je vous comprends bien, Jean-Mathieu ?
Oui, c'est ça. En tout cas, moi, je voudrais voudrais pas qu'on puisse me retrouver, par exemple. Je sais pas exactement quels sont les termes de la loi, j'ai pas regardé ça. Mais voilà, je voudrais pas qu'on puisse me retrouver parce que je serais jamais le papa de ces enfants-là.
Mais il n'est pas question. Voilà.
Alors, vous ne serez pas le papa, vous serez le donneur. J'entends d'ici la réponse de Jean-Luc Théorène, mais je voudrais quand même entendre
Lilia. Et d'autre part, les gens ne viendront pas le voir, puisque il est évident que ne seront l'objet d'une rencontre que les donneurs qui acceptent cette rencontre. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'il y ait des informations qui soient transmises.
Est-ce qu'il y a
et ces informations sont en définitive assez peu dissuasives. Ouais. On a l'expérience de tous les pays qui nous ont précédés en Europe depuis une vingtaine d'années, et la plupart des autres pays européens ont déjà fait cela. Il y a quelques donneurs qui, effectivement, ne veulent pas donner hors de l'anonymat, mais il y en a plus encore qui veulent donner, justement, dans des conditions telles que celles-ci, qui permettent d'avoir des informations transmises aux enfants futurs.
Nélia Schaufriedmann, là-dessus.
Alors, moi, je voudrais vraiment, parce que c'est important de le dire pour les enfants issus du don actuellement, qui n'ont pas accès à leur donneur, parce que je reçois beaucoup de messages, parce qu'il a été beaucoup dit que ces enfants n'avaient pas accès aux antécédents médicaux et que c'était une façon de justifier l'accès aux donneurs. Je tiens quand même à dire que depuis 1975 qu'on recrute des donneurs, ces donneurs sont sont sélectionnés justement parce qu'ils n'ont aucun antécédent médical. Il y a des critères d'exclusion qui sont même parfois à la limite trop importantes. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de donneurs. Donc ces enfants-là, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'ils n'ont pas d'antécédents médicaux. Et si, par hasard, le donneur, au cours de sa vie, se rend compte qu'il a une maladie, il est normalement tenu d'informer le centre. Et le centre doit prévenir les parents. Et c'est extrêmement rare. Donc il faut rassurer ces enfants concernant ce problème des antécédents médicaux, parce que ça revient tout le temps.
Sauf que c'est pas ça la vraie raison, en fait. C'est pas vraiment les antécédents médicaux qui font.
C'est une façon de le justifier pour le faire comprendre au grand public. Mais je suis désolée, je défends les sécos, ce qui est normal. On a des critères pour retenir un donneur qui, justement, exclut tous ceux qui ont des antécédents dans leur famille de cancer, de diabète, d'hypertension. C'est même à la limite beaucoup trop.
Mais vous qui les voyez arriver dans les sécos, est-ce que vous craignez qu'effectivement il faille une grande campagne, comme le dit Monsieur Touraine, et une campagne non seulement pour pousser au don, mais pour expliquer ce que ça veut dire, y compris la levée partielle d'anonymat? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faudra vraiment travailler sur ce sujet parce que c'est peu évident pour les donneurs, ou ça passera facilement, finalement?
Je pense que c'est peu évident, surtout pour les donneurs qui n'ont pas d'enfants, puisque vous savez actuellement, les donneurs qui ont une conjointe et des enfants, on doit avoir l'accord de sa conjointe. Lorsqu'on a des jeunes gens qui sont célibataires, après, ils vont faire leur vie. Il va falloir quand même qu'ils annoncent à leur future femme qu'ils ont donné.
Potentiellement.
Et que potentiellement, il faut quand même qu'elle sache qu'un jour, peut-être qu'ils seront contactés. Et ça, c'est quand même peut-être un frein.
Jean-Louis Touraine, avant de vous redonner la parole, je voudrais qu'on écoute Nadège. Bonsoir Nadège.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Nadège.
Merci.
Allez-y.
Moi j'ai un témoignage je suis partie à l'étranger pour réaliser des tentatives de PMA dans un pays où la levée d'anonymat est déjà actée, donc l'Angleterre. J'ai fait ça car je considère que, en effet, pour la construction identitaire de l'enfant et évidemment pour des sujets médicaux, c'était essentiel et primordial. Donc je me félicite en fait de l'évolution de cette loi. Maintenant, des précisions quand même. La PMA, c'est pas une PMA, un don égale un enfant. Mm-hmm. C'est un parcours qui est difficile.
Ouais, c'est bien de le rappeler.
Ça fait 5 ans qu'on est en essai, on a fait plein d'essais en France, on part à l'étranger, c'est toujours sans résultat. Donc là-dessus, on est très aidés, notamment par des associations. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle BAMP, B-A-M-P, et on fait des groupes de parole et de soutien entre patientes. Maintenant, sur le sujet de la pénurie, c'est vrai qu'il y a une pénurie actuelle, c'est aussi pour ça qu'on est parti à l'étranger. Et il y a quand même la Sécurité sociale qui nous rembourse une partie de cette PMA à l'étranger, donc bien la preuve qu'il y a pénurie. Donc pour moi, je ne comprendrais pas que le fait de cette levée d'anonymat on supprime en fait et on détruise toutes les gamètes qui ont été données avant le régime, alors qu'il suffirait tout simplement de recueillir l'accord de ceux qui ont donné, en leur expliquant comme ce qu'on va faire en fait avec l'enfant qui naîtra de notre don. On va lui expliquer depuis son plus jeune âge comment il a été conçu et en expliquant aux donneurs qu'ils ne deviennent pas parents mais qu'ils restent donneurs et que l'enfant a simplement aussi besoin de mettre soit une image, un nom, ou ne serait-ce qu'une explication de pourquoi il a fait ce geste. Et en effet, moi je pense aux enfants qui ont été tous les enfants qui sont nés depuis avant la loi, et pour moi, il y a une mesure transitoire qui devrait être mise en œuvre.
Merci beaucoup, Nadège. On va répondre à cette question. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Louis Touraine, de ces 363 donneurs qui sont là? Est-ce qu'on va détruire? Alors, on a appris ce matin avec Agnès Buzyn qu'on n'allait pas détruire les stocks. Mais est-ce qu'on les rappelle, ces gens, pour leur dire à partir de maintenant, la loi a changé?
Absolument. Et votre auditrice a très bien résumé la situation. Il est indispensable, naturellement, que les donneurs soient recontactés, parce que il ne serait pas acceptable qu'on réalise quelque chose de différent de ce auquel ils ont apporté leur accord.
Mais donc concrètement, on rappelle Monsieur Untel, et s'il dit ah ben non, moi je veux pas la levée de l'anonymat, alors on détruira. Alors, son sperme,
il y aura une certaine phase transitoire pendant laquelle les nouvelles dispositions ne sont pas tout à fait encore mises en place. Hein. Il faut un certain temps d'organisation, y compris administrative. Et puis, mais pendant tout ce temps-là, les anciens donneurs seront recontactés. Parmi ceux-là, moi je pense que effectivement, il y aura des personnes qui diront « nous acceptons les propositions nouvelles ». Et là, il n'y aura aucun problème. Pour les autres, eh bien, les gamètes ne seront pas utilisés. Parce que...
Mais pas utilisés, ça veut dire détruits, systématiquement?
Il peut y avoir, dans certaines
parce
conditions...
Parce que sinon, ça sert à quoi, pardon?
Ben, on peut demander. Certains peuvent souhaiter qu'il y ait des activités de recherche ou d'autres réalisations qui soient faites. En tout cas, ce sera avec leur accord. Il est évident qu'un donneur doit toujours être maître... De l'utilisation de son don. Et donc, ceux-ci pourront effectivement demander la destruction de leur gamète s'ils le désirent, et ça sera évidemment respecté. Donc je crois qu'il ne faut pas craindre d'une façon excessive qu'il y ait un vide à un moment donné, une impossibilité d'avoir accès à des gamètes. Par contre, ce qu'on peut craindre, c'est que les campagnes d'information ne soient pas suffisamment rapides, suffisamment performantes, suffisamment motivantes pour recueillir tout de suite le nombre de dons. Mais à l'avenir, on est sûr qu'il n'y aura pas de pénurie. Tous les autres pays qui sont autour de nous le montrent. C'est-à-dire que l'introduction de l'accès aux origines, dans tous les pays où ça s'est passé, a provoqué d'abord une légère diminution, mais ensuite une augmentation du nombre de donneurs.
Est-ce que ça veut
dans
dire...
tous les pays.
Et Nelly Achour-Friedman, est-ce que ça veut dire que du coup, peut-être que vous n'en savez rien encore, pauvrette, mais que le profil du donneur va changer, en fait. Ce seront plus les mêmes, au fond, ceux qui ont donné jusqu'à présent et ceux qui donneront, là, pour le coup, en connaissance de cause, puisque 18 ans après leur don, quelqu'un peut chercher à les rencontrer.
Alors, il y a plusieurs questions. Tout d'abord, il faut quand même rappeler que la loi, le projet de loi prévoit actuellement un double guichet, c'est-à-dire des donneurs qui vont dire d'accord pour donner mon identité et d'autres qui vont dire on va donner des données non identifiantes. Donc déjà, il faut savoir qu'on crée un système où les enfants...
Certains pourront avoir un accès, d'autres...
Avec le hasard de l'utilisation, de l'attribution des gamètes, qui n'est pas vraiment du hasard, mais en fonction de l'attribution des gamètes, il y aura de toute façon deux statuts d'enfants. Et ça va poser un problème, ça c'est sûr. La deuxième partie de la question, c'est il n'y aura pas de pénurie. Alors moi, je veux bien entendre tout ça, mais en Belgique, et pour avoir vraiment discuté avec les collègues, ou en Angleterre, qu'est-ce qui s'est quand même passé? Il faut le dire, il y a une banque au Danemark qui s'appelle Krios et qui vend des paillettes. Enfin, je veux dire... en Belgique, ils importent plus de la moitié de leurs paillettes avec des donneurs qui peuvent être ouverts et on paye plus cher, ou des donneurs qui ne sont pas ouverts, donc ils veulent rester anonymes, et les gens payent moins cher. En Angleterre, il faut savoir que c'est exactement la même chose, à tel point qu'il y a des articles actuellement sur le fait que le Brexit va entraîner des difficultés pour les patients, les couples qui sont en attente de dons de sperme, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont réussir maintenant avec le Brexit à importer des gamètes. Nous, en France, on n'a pas le droit d'acheter des gamètes à l'étranger, à ce que je sache.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs, c'est une question subsidiaire, mais ce qui se passe pour les femmes qui sont en procédure en ce moment en Angleterre, si le Brexit intervient bien le 31 octobre, est-ce que ça risque de poser un vrai souci
Il va y avoir des difficultés pour l'Angleterre pour importer ces gamètes du Danemark, et ils en importent également des États-Unis.
Jean-Louis Touraine, je vous voyais réagir, notamment, donc encore une fois, on revient sur ce sujet de la pénurie.
Non, je pense qu'on est dans une phase de transition, évidemment. Les Sécos ont fait un travail remarquable, et c'était une autre époque, dans laquelle on privilégiait une certaine obscurité sur les origines. Et dans les familles, on conseillait même, à l'époque, au tout début, aux parents de ne pas dire à l'enfant qu'il avait été conçu grâce à un don.
Les choses ont évolué. Dans les familles hétérosexuelles, il y a beaucoup de choses qu'on peut...
Les choses ont évolué. Oui. Et demain, nous serons dans une société de transparence. Et je pense que tout le monde est d'accord pour être dans cette transparence-là.
Pas seulement, parce que quand on ouvre au couple de lesbiennes, quand on est un couple de femmes, on peut difficilement cacher à son enfant qu'il est né par un don.
Ceci va aussi entraîner le fait que pour les couples hétérosexuels, de la même façon, il faudra conseiller très très fortement, parce que pour la structuration psychologique de l'enfant, c'est extrêmement important. Parce qu'ils l'apprennent sinon. Ils l'apprennent dans des conditions qui sont toujours négatives. Et ça crée des grandes perturbations. Alors, pas tous demandent cela.
Non, mais ils ne demandent pas forcément une filiation, ne demandent pas forcément une généalogie non plus, c'est souvent beaucoup plus compliqué, ou voire très simple, en fait, simplement.
Il y a tous les degrés.
Pour avoir reçu beaucoup d'enfants à qui on avait annoncé qu'ils étaient issus d'un don, souvent, c'est pas tant le donneur qu'ils veulent rencontrer, mais ils veulent savoir comment ça s'est passé, et ils veulent savoir si, justement, il y a des problèmes médicaux, qu'est-ce qu'ils doivent dire aux médecins, etc. Une fois qu'on leur explique les choses, en général, ça se passe très bien.
Alors, il y a donneur, il y a aussi donneuse. Oui, bon, et exactement. C'est bien de pas l'oublier. Bonsoir, Lauriane.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Lauriane.
Merci. Donc, notre parcours, enfin, parce que donneuse, on est deux, en fait, avec mon conjoint. Nous, on a un parcours de PMA classique. On est un couple qui a essayé d'avoir un enfant et qui a dû passer par la PMA plusieurs fois pour pouvoir avoir enfin une petite fille. Et cette dernière FIV a très bien fonctionné et du coup, on a conservé des ovocytes fécondée pour une prochaine grossesse et la vie a fait que j'ai eu un deuxième enfant naturellement. Et notre famille est complète avec deux enfants et par contre l'idée même de jeter ces ovocytes fécondés, ça me paraissait tellement impossible que pour l'instant on les a conservés. On a le droit gratuitement de conserver pendant 5 ans ces ovocytes. Et le fait que la loi va changer me donne une envie très forte de pouvoir... pour nous, c'était évident qu'on allait les donner. C'était sûr et certain. J'avais juste besoin de ce temps de deuil pour dire « Ok, on les laisse partir et on va les donner. » Enfin, c'était un choix évident d'aller donner ces ovocytes à un couple infertile. Je voulais rebondir aussi, les parcours de PMA sont très difficiles aussi, même sans don. Et que du coup, pouvoir se dire qu'à notre petite échelle, on pouvait aider un couple infertile, alors que ce soit un couple hétérosexuel, homosexuel, ça, nous, on s'en fiche.
De toute façon, vous n'aurez pas le choix.
Voilà, mais voilà, nous, il n'y a pas d'importance, en fait.
Ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que la levée de l'anonymat, au contraire, ne vous pose pas de problème. Et j'entends, parce que votre histoire, elle est jolie, et à vous pouvoir raconter à un enfant après, qui est né par un don, que moi, j'avais déjà deux enfants, etc. Est-ce que au fond, Lauriane, vous vous dites, moi j'aimerais bien en fait qu'il sonne à ma porte dans 18 ans cet enfant-là pour que je lui raconte cette histoire ou pas?
Tout à fait. Non, c'est clair, pour moi ça pourrait être une jolie histoire parce que notre famille elle est complète, on ne veut pas d'autres enfants, on veut pas, voilà, nous on est bien à tous les quatre. Par contre, on trouve ça... Ouais, moi, je trouverais ça chouette qu'ils veuillent nous rencontrer si ça fonctionne, qu'un jour, peut-être dans 18 ou 20 ans, il y ait quelqu'un qui sonne à la porte ou qui appelle juste pour... Voilà, on serait ravis de savoir que notre petite aide, notre petit don aura servi à construire une famille, en fait. Donc, ça, on trouverait ça chouette, tous les deux avec mon conjoint, ouais.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Lauriane. Jean-Louis Touraine, Lauriane, c'est votre passion zéro. C'est ça, c'est des Lauriane que vous voulez, et son mari, à multiplication, en fait.
C'est très bien. Et elle évoque deux sujets, d'ailleurs. Il y a le don d'ovocytes, et puis il y a le don d'embryons. Mm-hmm. Qui ont été déjà constitués en couplant les ovocytes et les spermatozoïdes. Mmh. Et dans l'un et l'autre cas, il peut y avoir don. Des embryons congelés, actuellement, il y en a de très grandes quantités dans beaucoup de laboratoires en France, et qui, effectivement, n'ont pas de destinée, mmh. n'ont plus de projet parental, puisque les familles sont complètes. Et donc, la possibilité de les donner à des couples infertiles qui le souhaitent, c'est effectivement quelque chose de remarquable. Mais il y a aussi la possibilité de donner des ovocytes. Mmh. Et
c'est plus douloureux, hein.
Vous l'avez probablement vu dans le projet de loi, mmh. il y aura la possibilité pour une autoconservation des ovocytes. Et donc, pour des femmes qui veulent garder leurs ovocytes et avoir une fécondation de leurs ovocytes plus tard, alors qu'elles approchent de l'âge un peu limite, eh bien, il est évident que ces femmes qui auront fait congeler des ovocytes, une fois qu'un certain nombre auront été utilisés pour elles-mêmes et que leur famille sera construite, comme ça vient d'être dit, elles pourront le donner à d'autres. Et c'est vrai qu'il y a aussi une pénurie, même plus importante, de dons d'ovocytes.
Et j'ai une question subsidiaire là-dessus. Lorsqu'on a fait congeler ces ovocytes à l'étranger, puisqu'aujourd'hui c'est le seul moyen de le faire, est-ce qu'on les rapatrie? Est-ce qu'on pourra les rapatrier ou pas?
Alors il faut que la législation des deux pays le permette. Pour l'instant, il y a eu plusieurs cas qui ont défrayé la chronique de Français qui avaient congelé... Par exemple, des embryons, et puis un des parents était décédé, enfin le père était décédé, et la femme voulait récupérer ces embryons pour une PMA en Espagne, par exemple, mm-hmm. ou dans d'autres pays. Ça n'a pas été autorisé. Il faut que la législation des deux pays le permette. Mm-hmm. Mais si il y a accord dans les deux pays, oui, il n'y a pas de difficulté, au moins en Europe, pour qu'il y ait un transfert d'un pays à l'autre.
Allez, je voudrais qu'on écoute Yann. Tiens, on nous reproche d'être trop pro-PMA. On va écouter Yann, un peu hors sujet, Yann, si je puis me permettre. Mais je vous en prie, allez-y, on va répondre à votre question. Allez-y.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question.
Allez-y.
J'aurais aimé, s'il vous plaît, parler de la place du père, parce que ça me semble important dans ce débat. L'élargissement de la procréation assistée aux femmes homosexuelles est bien sûr une avancée qu'on peut saluer. Pour ce qui est des femmes seules, je pense que ça soulève la question de la place du père, parce qu'une fois qu'une femme seule a fait le choix de faire un enfant, je dirais toute seule, comme voilà, comment se positionne un homme en fait? Qu'est-ce qu'elle peut choisir un père tout au long de sa vie, de temps à autre? Comment se positionner en tant qu'homme vis-à-vis de ça? Je pense que la place du père doit aussi être une question qui doit être soulevée, qui doit être importante aussi.
Merci Yann. Et si je disais un peu hors sujet tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'on s'était, on a décidé nous pour ce premier téléphone sonne de se focaliser sur des questions pratiques et des réponses pratiques. Et sur le fond, il y en aura d'autres effectivement des téléphones sonnes de ce type et avec ce genre de questions que vous serez évidemment tous amenés à poser. Mais je vous en prie, on recule pas devant l'obstacle. Nelly Achaud-Friedman sur ce sujet.
Alors ce que soulève Yann comme question, c'est qu'on va faire de la PMA sans père d'intention. Mm-hmm. Ça a été beaucoup, on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de gens qui sont contre, beaucoup de psychologues ou de psychiatres, beaucoup de gens qui sont pour. Donc ça, c'est un débat effectivement qu'il ne faut pas avoir ici. En revanche, sur les femmes non mariées, effectivement, il faut savoir qu'en Belgique, par exemple, les critères d'acceptation de ces femmes sont très 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 bien définis. Mmh. Il faut qu'elles aient un métier, il faut qu'elles soient autonomes, faut pas qu'elles vivent chez leurs parents, faut pas qu'elles aient d'handicap, et avec des critères qui sont peu adaptés pour notre
Belgique,
société.
Ouais. Ce que dit la Belgique, c'est on veut pas créer de famille monoparentale
précaire. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a 40% des demandes qui sont refusées. Ouais. Donc en France, et là là, par contre, il va quand même vraiment falloir y réfléchir, puisque nous, médecins, on n'est pas des assistantes sociales, on n'est pas des, on n'est pas des psychologues, et même le droit, alors qu'il est la réglementation, ne nous autorise pas à tenir compte de ce genre de situation pour accepter ou refuser. Mmh. Et ça, il va vraiment falloir qu'on s'y penche, parce que on va être démunis face à des demandes de patientes qui peut-être seront jugées non acceptables.
Sauf que c'est terriblement rude quand on y songe, parce que quand on est en situation de précarité à ce moment-là, qui dit qu'on sera encore en situation de précarité, ni même dans la capacité à s'occuper d'un enfant,
alors,
y compris dans une situation de précarité.
Peut-être qu'on réorientera, et ça c'est très très bien qu'on ait autorisé la congélation d'ovocytes, puisque ça permettra peut-être à ces patientes de congeler leurs ovocytes en attendant peut-être d'aller mieux, plutôt que de se lancer directement sur un enfant toute seule.
Jean-Louis Touraine, on l'a évoqué, cette question et qu'est-ce qu'on on en conclut quoi, nous, de notre côté?
Je voudrais juste dire qu'on peut quand même raisonner sur pas mal d'études, malheureusement peu en France, mais beaucoup dans les pays anglo-saxons, où on voit bien que les femmes seules qui bénéficient d'une PMA, ne sont pas vraiment comparables pour l'éducation des enfants avec les familles monoparentales, comme vous le décrivez. Ce sont généralement des femmes avec des capacités matérielles qui ont été précédemment définies, qui ont la possibilité de mener conjointement, en même temps, leur travail et l'éducation des enfants, qui ont aussi des aides familiales ou d'autres natures. Et on sait que ces enfants sont très fortement désirés. Et donc, ce ne sont pas des enfants qui risquent d'être négligés. Ils sont beaucoup aimés. Et ils sont l'objet de beaucoup d'attention. Donc je crois que c'est important d'avoir cette notion en tête.
Ce que je trouve très compliqué
L'image, parce qu'on a toujours l'image des familles monoparentales précaires. Ce n'est pas le cas de la plupart des femmes qui viennent solliciter des PMA.
Parce que
maintenant,
je suis très interloqué par les 40% en Belgique dont parle Nelia Shaw-Friedman. Ça me paraît énorme.
Il y aura même des cas franchement psychiatriques, obligatoirement sur le nombre global. Et là, il y a quand même une part de responsabilité de l'équipe qui doit s'entourer aussi.
Mais qui prendra la décision? Parce que je vois bien Nelia Shaw-Friedman qui piaque.
C'est une décision collégiale, là.
Mais collégiale, c'est-à-dire, est-ce que c'est...
Dans une équipe entre médecins, psychologues ou psychiatres, etc., pour savoir si, dans tel cas, une personne fait une demande déraisonnable. Parce que c'est très difficile de le dire si on est seul médecin face à son malade. Par contre...
Mais en tout cas, la décision va rester dans l'hôpital.
Un dossier analysé de façon collégiale, où on peut dire, là, il y a une demande qui n'est pas raisonnable, l'enfant va être dans des conditions d'immense précarité, la demande n'est pas une demande tout à fait saine, c'est une femme qui demande à vouloir avoir un enfant pour occuper son temps, mais non pas pour s'y consacrer. Parce que, vous savez, on n'a pas...
C'est très très glissant.
Il n'y a pas de droit à l'enfant. Mais dans notre pays, il n'y a pas et il n'y aura pas de droit à l'enfant.
C'est très glissant sur qui
ce qui compte, ce sont les droits de l'enfant. Cet enfant a le droit d'avoir une mère qui aura les possibilités de l'élever.
Je comprends ce que vous dites. Je trouve que la pente est extrêmement glissante parce que qu'est-ce qu'on en sait au bout du compte, si ce n'est qu'on voit une femme à un instant T. Est-ce que vous avez le sentiment,
Nelly Shaw-Friedman a bien dit, on a la possibilité de différer. Si il y a une femme, pour
mais est-ce que vous savez faire ça? Vous êtes médecin. Vous avez une femme qui arrive en face de vous.
Sur quoi je voudrais un petit peu alarmer, c'est que à l'heure qu'il est, on n'est pas équipé dans les services publics qui sont extrêmement contraints. Dans les centres d'AMP, il n'y a pas d'assistantes sociales, il n'y a pas de travailleurs sociaux, il y a très peu de psychologues. Ceux qui ont la chance d'avoir un psychologue à plein temps, c'est correct, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc là, forcément, je profite aussi de l'antenne pour alerter en disant il faut que dans le service public on se réunisse, que nos directions fassent un état des lieux de ce qu'on a et de ce dont on a besoin pour accueillir correctement les patientes. Après, il y a des comités d'éthique qu'on peut solliciter pour des cas difficiles et qui pourront nous aider, mais on n'est pas des travailleurs sociaux, je tiens à le dire.
quid du remboursement par la Sécurité sociale? Tous les hôpitaux manquent de moyens, c'est un désir individuel financé par de l'argent public, nous dit cette question sur franceinter.fr. La question du remboursement, est-ce qu'elle a été débattue ou logique, on va dire?
C'est légitime d'en débattre, mais c'est légitime aussi d'y répondre positivement. Ça représentera une différence infime. Vous l'avez entendu tout à l'heure d'une de vos auditrices qui a dit il y a déjà une partie qui est prise en charge pour toutes celles qui vont à l'étranger. Les examens, etc. Donc en réalité, le surplus de coûts va être extrêmement faible. Et puis, ça serait très injuste, très inégalitaire, très discriminant de le permettre aux uns et pas aux autres.
Bien sûr. Alors,
j'ai entendu des remarques qui étaient de bon sens, disant oui, mais on accepterait que soit prise en charge quelque chose qui est pour suppléer à une stérilité médicalement prouvée. Sauf que ce n'est plus le cas depuis longtemps. Aujourd'hui, l'assistance médicale à procréation est accordée à des couples qui n'ont pas de stérilité, simplement qui n'arrivent pas à procréer. Et d'ailleurs, certains d'entre eux, après, ont des enfants dans les conditions naturelles, après avoir bénéficié d'une PMA, voire d'un donneur.
Il y a une question qu'on a à peine effleurée, mais Suzy, vous allez nous aider à nous y remettre et à poser cette question très concrètement. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, ma question est assez simple, c'est savoir si vous aviez réfléchi au don dirigé pour lutter contre la pénurie de donneurs et pour éviter tout ce qui est insémination artisanale à domicile.
Merci pour votre question, Suzy. Don dirigé, pour expliquer les choses, on vient tout simplement avec son donneur, en fait, en disant voilà mon donneur et voilà avec qui je veux faire cette procréation médicalement assistée. Est-ce que ça existe en Belgique, hein, autant que je sache,
oui.
Nelly Achour-Friedman?
Oui, ça existe.
Et vous, le médecin que vous êtes, trouverez que ce serait finalement plus pratique, plus facile, surtout si on se retrouve en situation de pénurie, ou est-ce que c'est terriblement injuste, en
fait? Alors d'abord, dans notre organisation, avec un donneur, on peut faire normalement 10 enfants. Mm-hmm. Donc déjà, bon, ça suscite des questions,
ouais.
Puisque là,
ce serait
utilisé que pour un couple. Et deuxièmement, l'avis des psychologues, parce qu'on a souvent abordé la question, c'est que on met le couple receveur dans une dette. Parce que même si avant de le faire on s'en rend pas bien compte, mais ou à la naissance de l'enfant on s'en rend pas bien compte, mais après l'enfant va grandir, etc., il y a un risque que s'établisse une relation entre le donneur et le couple receveur qui est sous forme d'une dette morale qui n'est pas viable. Voilà.
Alors, nous y réfléchissons et ça sera l'objet d'un débat à l'Assemblée. Il y a des arguments pour, et puis des arguments. Pour, ça limite la pénurie.
Ouais.
Pour, c'est aussi le fait de demander à ses donneurs de donner pas seulement pour une personne, mais pour 10 personnes. Donc, en plus de la personne accompagnée,
il y en aura
9 autres.
Voilà.
Bon, et puis, je crois que c'est une réflexion qui, en définitive, peut trouver des solutions si on veut l'amener à bout. La solution, c'est exactement celle qui a été appliquée pour les dons d'organes. Vous vous souvenez que pour les dons d'organes, le don de rein, par exemple, avant, il n'y avait que les frères et sœurs et pères et mères qui pouvaient donner des reins. Maintenant, ça peut être des amis. Et ceci est l'objet d'un contrôle auprès d'un juge qui s'assure qu'il n'y a aucune pression, aucun échange d'argent, rien de préjudiciable. Et en définitive, le fait de connaître son donneur n'a jamais entraîné de difficultés pour des dons d'organes. Or, le don d'un rein, c'est quelque chose qui est quand même relativement important. Donc, on sait qu'on a un exemple sur lequel auquel se référer si on veut l'appliquer. Mais la décision n'est pas encore prise. C'est un débat qui va s'ouvrir ce soir même, d'ailleurs, dans une commission pour savoir si on sera, parmi les députés de la majorité, plutôt favorable à ce don dirigé.
Mais j'ai cru entendre, Nelly Achour-Friedman, que ce qui existe déjà, c'est le faux don dirigé. C'est-à-dire, on vient avec quelqu'un que c'est pas pour nous, mais néanmoins qui fait donneur supplémentaire. Et donc, quoi, on est plus haut dans la liste d'attente, c'est ça, dans ces cas-là?
Malheureusement, dans le cas du don d'ovocytes, on est obligé de demander au couple qui
d'accord,
est demandeur
de venir avec une femme,
d'essayer de trouver une donneuse parmi leurs connaissances ou amis ou famille pour entretenir un pool, mais cette donneuse ne donnera jamais pour le couple en question.
Il nous reste à peine une minute, donc Laetitia, pardon, je vais prendre votre question dans ma voix. Vous avez entendu très longtemps au standard. Laetitia nous explique qu'elle a fait 3 parcours de PMA, des parcours qui sont toujours très longs dans les hôpitaux. L'ouverture ne va-t-elle pas encore plus allonger ce temps d'attente, dit-elle? N'y a-t-il pas des moyens supplémentaires? Ça nous revient à notre première question, ça permet de boucler la boucle. Y a-t-il moyen d'ouvrir à des moyens supplémentaires pour qu'il n'y ait pas de liste d'attente, Jean-Louis Touraine?
Il le faut. Il faut s'en donner les moyens. C'est une question qui n'est pas seulement financière, qui n'est pas seulement d'organisation, mais qui l'est aussi. Et puis, c'est une mobilisation de la générosité, plus généralement. Et je crois que si on veut vraiment s'en donner les moyens, on a l'exemple de beaucoup de pays qui l'ont réussi, on peut faire en sorte que la durée d'attente soit réduite à moins d'un an.
En tout cas,
c'est très important, parce que vous savez que souvent, les femmes qui le sollicitent souvent à partir de 35 ans, et l'horloge biologique est sévère pour les femmes.
Voilà, en tout cas, on a bien entendu que l'une des premières choses, ce sera une grosse campagne pour inciter au don, parce qu'effectivement, vous aurez peut-être des problèmes de ce point de vue-là. On aura tellement l'occasion d'en reparler de ce sujet dans le téléphone sans. On sera d'ailleurs ravis de le faire. Merci à tous.